lorsque l'on dit aux gens que l'on a rendez-vous dans une chocolaterie à Courtelary, tout le monde pense que l'on va se rendre dans un immense bâtiment flambant neuf appartenant à l'un des grands chocolatiers helvétiques. Pourtant, c'est dans une vieille ferme dont le rez-de-chaussée a été fraîchement rénové que je dois retrouver mon invité. Situé au bord de la route principale, ce bâtiment historique surprend par son sas d'entrée moderne. Une fois la porte poussée, je tombe sur un vendeur concentré sur la mise en place d'une grande orchidée blanche. Tout autour de lui sont exposés des dizaines de chocolats de formes diverses et variées. Et sur le côté de la pièce, une grande baie vitrée qui donne directement sur le laboratoire, là où naissent les créations du maître des lieux. Il est d'ailleurs en train de travailler lorsqu'il m'aperçoit et me salue d'un hochement de tête. Ni une ni deux, je fais le tour du comptoir pour passer dans les coulisses de la chocolaterie. La douce odeur du chocolat fondu me saute au nez et mon invité m'accueille d'une poignée de main. Au centre de la pièce trône un grand plan de travail sur lequel reposent des coques de praliné. Je demande alors où l'on s'installe et là, pas de chichi, la rencontre se déroulera au plus près du produit. En fond sonore de la musique électronique, face à moi, un interlocuteur enjoué qui transpire la passion, Christophe Bourquin, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Alors Christophe Bourquin, vous avez ouvert votre chocolaterie en mai dernier à Courtelary, mais avant d'en parler, nous allons faire un saut de près de 30 ans en arrière pour évoquer votre parcours pour le moins atypique. Vous êtes un enfant de Villeray, vous avez fait vos écoles à Villeray et Courtelary, et en 1989, vous décidez de devenir pâtissier-confiseur. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette voie ?
En fait, je pense que j'ai toujours aimé manger, les douceurs, la cuisine. Déjà quand j'étais petit, j'allais dans la cuisine, regarder ce que ma maman faisait. J'essayais d'aller l'aider et tout, et c'est devenu naturel pour moi.
Et vous aviez un péché mignon quand vous étiez petit ?
Peut-être les mars de mon grand-père.
Alors déjà du chocolat. Hein,
et exactement.
Et donc vous commencez votre apprentissage à Bienne le 1er août 1989, un jour férié. Ça vous a tout de suite mis donc dans le bain par rapport aux exigences du métier.
Exactement. Là, il n'y a pas de chichi, on commence tout de suite. Voilà, même si c'est le 1er août, voilà, on est dans le métier, on travaille les fêtes et c'est normal.
Et pour vous, ça n'a jamais été un problème, ça, de devoir travailler quand les autres sont en congé, sont en famille ?
Non, on s'y habitue aussi, voilà, on a d'autres jours de congé, d'autres plages de congé, on s'adapte.
Et pendant 10 ans, donc, vous restez chez votre premier employeur, puis vous partez à l'autre bout de la Suisse, à Saint-Gall, pour fabriquer des Biberly. Vous aviez envie de dépaysement, qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ?
J'avais à un moment donné, j'avais envie de changer, quoi. Puis aussi peut-être aller en Suisse alémanique, découvrir autre chose, apprendre mieux l'allemand. Et voilà, d'autres recettes, d'autres lieux, d'autres traditions. Et voilà, c'est ce qui m'a amené là-bas. Autant changer du tout au tout.
Et dans le travail, vous avez senti une différence entre Bienne, entre Saint-Gall ? Est-ce qu'on travaille de la même manière
Il y a certaines choses, bien sûr, pour la pratique, il y a des choses qui ne changent pas, mais peut-être il y a plus de rigueur, il y a plus, c'était aussi une plus grande entreprise, plus grande confiserie, il y a plus de rigueur, plus d'organisation, donc on était aussi plus, donc voilà, ça a changé vraiment aussi.
Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment sur le plan professionnel, cette expérience-là ?
On va dire que ça m'a amené de la rigueur aussi. Avoir plus de rigueur, plus d'organisation dans le métier. Voilà, on ne peut pas seulement faire ça olé olé.
Donc là, après 10-11 ans, tout se passe bien pour vous dans le métier. Vous cumulez les expériences. Et là, à l'orée des années 2000, vous êtes contraint de revoir un peu vos plans de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben voilà, j'ai eu des maladies professionnelles, si on veut, en phase de certaines allergies de contact, certains produits, surtout dans la pâtisserie, dans la petite boulangerie, ces choses-là. Et j'ai eu des problèmes assez graves de santé, d'allergie et tout. Et ben, j'ai dû changer de métier.
Et comment est-ce que vous avez vécu ce moment, justement, où vous avez compris que vous ne pourriez plus exercer votre profession de base ?
Pas évident, parce que ça a toujours été mon métier, voilà, ma passion et tout. Mais j'étais tellement embêté... À l'époque, gêné par ces allergies, que bon, on s'y fait malgré tout, quoi.
Justement, c'était moins dur parce que c'était dur, justement,
exactement,
d'être confronté
voilà.
À ces
problèmes-là. Du fait des ennuis de santé, c'était plus facile de changer de métier parce que, ouais, c'était vraiment pas évident.
Alors là, à la suite de ces problèmes, hein, vous trouvez un emploi dans les douanes civiles à Bâle. Comment s'est fait cette transition ? Pourquoi les douanes ?
Les douanes, j'ai aussi vu les ennuis de santé que j'avais. Les assurances m'ont plus ou moins obligé de travailler dans un bureau. Donc il y a pas 150 000 places dans des bureaux. Puis j'ai ma sœur qui travaillait déjà dans les douanes. Elle m'a dit, bah, tiens, ça c'est un peu intéressant. Quand on dit les douanes, nous on voit les gens qui sont en uniforme. Et, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens qui travaillent dans les bureaux et tout. Et on, par ce métier qui était quand même intéressant, on apprend les marchandises, tout ça. Ben, je me suis lancé là-dedans.
Donc finalement, ça vous a permis de voir une autre facette de ce que vous faisiez avant sur l'import-export.
Voilà, par exemple. Exactement. On voit d'où viennent les noisettes, combien il en rentre par an en Suisse, etc. Voilà.
Donc du bon bagage pour
exactement.
Aujourd'hui. Et puis malgré cette reconversion, hein, la passion du chocolat ne vous quitte pas. Et au bout de 2 ans, vous m'avez dit que vous faites part à vos collègues du fait que vous faites du chocolat à la maison. Et ça ne sera pas sans effet. Racontez-nous ce qui s'est passé ensuite.
Ben oui, comme j'étais aux douanes, je n'avais plus 20 ans quand j'ai commencé aux douanes. Ils m'ont demandé ce que je faisais avant. J'ai dit, ben voilà, j'étais dans la confiserie, chocolat, pâtisserie. Puis ils m'ont dit, oh mais nous on aime ça. C'était un peu la période avant Noël. Puis ils m'ont dit, tu fais des chocolats à Noël? Je dis, non, pas spécialement, mais je peux en faire. Ah, mais si tu en fais, tu nous dis, nous, on veut goûter ce que tu fais, etc. Et c'est parti comme ça. La première année, j'ai fait quelques kilos pour des amis, pour mes collègues de travail. Et c'est parti comme ça.
Alors ça, c'est les premières années. Ensuite, vous m'avez dit, hein, vous êtes passé de 20 kilos par an au début de votre carrière aux douanes, vers 2002, à passer 800 kilos au bout de 17 ans passés aux douanes. Comment est-ce que vous vous organisiez pour mener ces deux activités, sachant que vous étiez employé à plein temps?
Ah ben, plus les années avançaient, plus il fallait s'organiser à l'avance, quoi. C'était plus, la première année, c'était une semaine. Mais après, à la fin, je commençais déjà les préparations presque en été. Parce que c'est devenu tellement grand et je prenais presque toutes mes vacances que pour faire ça.
Donc, vous m'avez dit, hein, vous avez même pris des fois des congés sabbatiques pour faire du chocolat.
Exactement, la dernière année, l'année d'avant, j'ai pris 3 semaines de congés non payés.
Et là, du côté de votre employeur, comment ça passait de que vous lui disiez, écoutez, je ne serai pas là, je serai en train de faire du chocolat pour mes collègues ou mes...
On a la chance dans les douanes d'être une grande administration avec beaucoup de monde. Et si ce n'était pas des grands congés sabbatiques, comme ça, on peut assez s'arranger quand on travaille dans un grand bureau.
Et vous me l'avez dit, hein, en amateur, ça vous a aussi permis de... Enfin, ça a pris tellement d'ampleur que vous livriez du chocolat de Saint-Gall à Genève, pratiquement.
Pratiquement, exactement. Et seulement par mes collègues, le bouche à oreille, voilà, faire plaisir aux amis, etc. Et vraiment, ça a toujours été ma passion, quoi. J'ai toujours aimé ça, de partager cette passion du chocolat.
Alors l'an dernier, vous décidez de vous lancer pleinement, hein, dans cette passion et vous choisissez de revenir à vos racines en posant vos valises à Courtelary. Lorsque l'on parle de Courtelary et de chocolat, on pense évidemment au géant Camille Bloch. Nadia s'est rendue dans votre chocolaterie et vous a justement demandé si s'installer dans cette commune n'était pas risqué. On écoute son reportage.
Sortie de boîte.
Non, je pense pas, parce qu'on regarde Camille Bloch, voilà, ça fait très longtemps qu'ils sont ici établis dans la région. Eux, ils fabriquent le chocolat, si on veut, ils transforment la fève en chocolat, ils ont leur produit phare, etc. Et moi, si on veut, je suis l'étape après, si on veut, le chocolat qu'eux fabriquent, moi je le transforme, j'en fais des pralinés, j'en fais des truffes, etc.
Alors ici, on est chez vous, il y a ce côté-ci où on peut appeler ça la cuisine.
Le laboratoire.
Le laboratoire.
Le laboratoire, oui, voilà, c'est le laboratoire, exactement. On a acheté une vieille ferme, l'ancienne écurie grange, si on veut, on l'a transformée en laboratoire et en boutique, voilà.
Et justement, de l'autre côté de cette vitre, il y a la boutique, donc c'est très proche. On peut voir même depuis la boutique l'intérieur du laboratoire. Ça, c'était voulu?
Oui, bien sûr, si on veut... Les clients, quand ils viennent à la boutique, ils peuvent me voir, mais moi, je peux aussi les voir. Voilà. C'est dans les deux sens. Enfin, c'est pas une vitre où on voit seulement dans un sens. On voit les deux sens et c'est ça aussi qui est pratique, quoi.
Comment ça se passe quand vous arrivez le matin? Quelles sont les premières choses que vous faites?
On va regarder, pour certaines choses qu'on n'a pas terminées le soir d'avant. On va terminer. On a peut-être un peu de vaisselle qui traîne dans un coin. On a quelque chose à ranger. On regarde aussi, voilà, on va faire un petit inventaire. Ou bien, est-ce que j'ai un petit peu de temps devant moi? Je peux regarder pour faire d'autres choses. Ah ben tiens, j'avais une idée en tête, je vais faire un test d'une nouvelle recette, etc. Puis après, ben voilà, on va se lancer dans la production, on lance un praliné, on lance une truffe, on commence à faire une ganache pour faire les truffes.
Alors en parlant de truffes, il y en a pas mal devant nous. Ça, c'est une production que vous avez faite quand?
Ben ça, je l'ai terminé hier. Ça, c'est des truffes à l'ancienne, si on veut, c'est des truffes qui sont roulées à la main. Donc on doit faire une ganache. Une ganache, c'est l'intérieur des truffes. C'est le mélange crème-chocolat, si on veut la ganache. Donc ça, c'est des truffes au chocolat noir. Donc on va cuire la ganache. Après, on va la laisser refroidir. On va la travailler. On monte une ganache pour la faire les dresser et les rouler à la main. Donc on va la prendre quand elle est à peu près moitié tirée. Là encore, l'intérieur est une partie liquide, une partie est déjà tirée de la ganache. Avec un sac à douille, on va faire un peu comme des boudins sur une plaque. Et on va prendre un rouleau, je vais vous le montrer. Il est caché là-bas, pardon. On va aller le chercher. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un rouleau à truffes. Ah ouais. C'est un rouleau avec, c'est un peu comme des couteaux, si on veut, qui sont espacés d'une même longueur. Et ça va me couper mes boudins de la même longueur. Il n'y a plus qu'à rouler mes petites parties de boudins.
C'est comme si on faisait des gnocchis.
Un peu, mais rond, voilà. Exactement. La prochaine étape, ce sera de leur mettre une première couche de chocolat dessus.
Et puis, comme on est dans votre laboratoire, alors je vois que vous avez plusieurs machines là-bas, dont une machine qui ressemble à une kitchenette géante.
Cette machine-là, ici, c'est une affineuse à billes qu'on appelle. J'emploie cette machine, c'est pour faire les pâtes à tartiner. Alors, une prochaine machine qui vous intrigue, donc ça, c'est ce qu'on appelle une tempéreuse. Donc, c'est un peu une fontaine à chocolat professionnelle, si on veut. On met le chocolat dedans, ça va fondre le chocolat et ça va le mettre à bonne température. Parce que pour travailler le chocolat, il faut que c'est une température correcte. On peut mettre le doigt dessous et on peut goûter.
Ouais, ça donne envie. J'ose ?
Bien sûr. C'est le privilège de visiter le chocolatier.
Waouh!
Sortie de boîte.
Christophe Bourquin, on l'a entendu dans le reportage, vous avez acheté une vieille ferme que vous avez dû rénover. Quand on se lance dans un tel projet, est-ce que ce n'est pas se rajouter des complications de devoir encore gérer tout ça?
Complications, je ne sais pas, mais ça ne simplifie pas les choses que si on construisait tout à neuf, ça c'est clair. Du fait que la maison est protégée, on ne peut pas tout casser, tout faire comme on veut. Il y a certaines règles à respecter. Mais avec la volonté, on peut quand même bien se débrouiller.
Et là, vous êtes satisfait de ce choix-là ?
Oui, tout à fait.
Alors, pour réaliser les travaux, vous êtes entouré d'artisans de la région. C'est important pour vous aussi de cultiver ce réseau, de travailler régional ?
Bien sûr, parce que c'est des bons artisans que j'ai trouvés au village et tout. Et moi aussi, en tant qu'artisan, j'essaye aussi de trouver des produits qui sont assez proches, comme le beurre, etc. Bon, pour le chocolat, c'est pas évident de trouver tous les produits. Je vais pas trouver des noisettes, je vais pas trouver du sucre, mais les produits que je les prends dans les artisans de la région.
Alors justement, c'est quel type de produit qu'on veut faire un peu du terroir sans pouvoir en faire complètement?
Ben, j'achète par exemple le beurre qui est de la région, les œufs sont d'un paysan qui est de la montagne, etc.
Et puis, vous avez investi aussi beaucoup d'argent pour lancer vos affaires. Comment est-ce que vous avez convaincu une banque de vous faire confiance alors que vous n'étiez plus dans le métier depuis 17 ans ? Ça s'est fait facilement ou pas ?
Facilement, je ne sais pas, mais il me semble presque, parce que je suis allé la première fois à la banque pour leur demander comment on se lançait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour créer une entreprise. Mon banquier connaissait déjà mes chocolats avant, puisqu'il il était déjà gourmand et tout. Et puis après, j'ai montré sur un papier mon projet et tout, lui expliquer et tout, et il a été emballé de mon projet, si on veut, je pense. Il m'a suivi.
Le fait de voir que vous produisiez déjà 800 kilos en amateur, ça aussi j'ai pu jouer.
Certainement. Comme si je ne pars pas de zéro, quoi. C'est comme si on part à zéro. J'ai déjà des connaissances, des amis qui me suivent, qui veulent continuer à me suivre. Et c'est un avantage, c'est sûr.
Alors vous vous êtes lancé à votre compte au mois de mai, hein, vous avez ouvert. Vous travaillez quand même encore à 60% pour les douanes pour quelques temps. Comment est-ce qu'on vit ces allers-retours entre la vie de patron et celle d'employé ?
Comment dire, ça fait des grandes journées parce que on a d'un côté le travail aux douanes où je suis encore à 60% et après j'ai le côté patron en artisan où je travaille encore 100% voire même plus, donc c'est des grandes journées.
Vous me disiez 14 à 18 heures par jour depuis une dizaine de mois, vous tenez encore le coup?
Il faut. Bon, j'ai un côté hyperactif, donc ça aide.
C'est déjà ça. Et donc, vous consacrerez bientôt tout votre temps à votre entreprise et votre rêve sera réalisé. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait tant rêver dans ce produit-là, dans le chocolat ?
qu'est-ce qui me fait rêver? Ben, c'est les possibilités qu'il y a dans le chocolat de créer, si on veut. On est artisan, on est un créateur, on peut créer une forme, on peut créer un goût, on associe des goûts, etc. Il y a vraiment, les possibilités sont presque illimitées.
Alors justement, lorsque vous réfléchissez à des nouveaux produits, où est-ce que vous allez chercher l'inspiration pour ne pas faire du déjà vu ou du déjà goûté, si on peut dire?
J'entends, moi j'ai des recettes de base, j'ai des vieilles recettes qui m'ont été données par un collègue également. Après, c'est par mes visites, mes voyages, quand je vais à Paris, quand je vais, etc., j'aime aller visiter les autres chocolateries. Ah tiens, ça c'est intéressant, puis peut-être je vais l'adapter avec une autre recette, une autre façon de la faire, etc., rajouter quelque chose avec. Donc, c'est par les voyages, par les épices, par un goût qu'on a trouvé, un nouveau produit qui vient sur le marché, etc.
On imagine que chacun a ses recettes secrètes qu'il ne partage pas. Là, vous arrivez quand même en goûtant chez d'autres à vous dire « Ah tiens, là, il a dû faire comme ça, il a dû faire comme ça » ou c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière un chocolat, même quand on est connaisseur?
Quand on est connaisseur, on reconnaît quand même beaucoup plus facilement, ça c'est clair. Quand on est du métier, on se dit « Tiens, lui, il travaille avec tel chocolat », on peut reconnaître certains goûts, certaines couvertures, parce qu'on appelle le chocolat de la couverture dans le milieu professionnel. Donc on peut reconnaître certaines choses, c'est clair. Et il y a des façons de faire qui restent les mêmes. Il n'y a pas de miracle. Le chocolat, on ne peut pas le travailler n'importe comment.
Alors, qui dit affaire, dit concurrent, hein, on l'a évoqué. Vous m'avez dit, dans la région, la concurrence est relativement faible. Comment ça s'explique, selon vous, qu'il n'y ait pas plus de chocolatiers, un produit qui marche quand même fort en Suisse?
C'est vrai que j'ai prospecté un peu autour. Qu'est-ce qu'il existe? Il y a beaucoup de confiseurs qui font les chocolats, mais de vrais chocolatiers, vraiment qu'un chocolatier, ça se trouve presque pas en Suisse. Et c'est vraiment bizarre. Quand on va à Bruxelles, quand on va à Paris, on voit des chocolatiers partout. Et en Suisse, presque pas.
C'est trop de travail, peut-être?
Faut du travail, faut de la passion, faut de l'investissement, faut du savoir-faire également. Donc, c'est pas forcément évident de le faire.
Alors, même si la concurrence est faible, on imagine qu'il faut quand même se démarquer pour être original. Là, vous l'avez dit, vous vous inspirez ailleurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir sa marque de fabrique?
Pour avoir sa marque de fabrique, il faut, je pense, avoir une ligne et s'y tenir, avoir des goûts où on les garde, pas changer tout le temps. Il faut amener des nouveautés, mais il faut aussi garder une ligne, amener des produits nouveaux, amener des produits sans huile de palme, etc. Il faut se démarquer pour ne pas proposer la même chose que les autres.
Chez vous, par exemple, qu'est-ce qui fait que votre chocolaterie, c'est la vôtre et qu'on ne trouvera peut-être pas ailleurs?
Peut-être par le choix qui n'est pas seulement, comment dire, j'entends les textures des chocolats. Je fais beaucoup des caramels, des nougats, des ganaches qui sont travaillées, pas seulement coulées. C'est la diversité qui fait aussi beaucoup, je pense. Et après, j'ai des spécialités comme les pâtes à tartiner que je viens de lancer, etc. La semaine prochaine, je vais avoir le nouveau chocolat qui vient de sortir. Ça s'appelle Ruby, c'est un chocolat rose. Ces choses-là.
Alors, dans tout commerce, il y a aussi la question du prix. Vous m'avez dit, pour vous, le but, c'est de vendre des chocolats et pas des boîtes. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Exactement, parce que l'important pour moi, c'est de pouvoir partager cette passion du chocolat. Le chocolat qui est un produit de luxe dans les chocolateries, qui est assez cher, qui peut monter, tout dépend, vous allez en ville, à 150, 160, 180 francs le kilo. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse d'avoir un prix au plus juste, que le plus de monde puisse en profiter, puisse venir chez moi et puisse goûter, manger ces bonnes douceurs.
Vous le dites, un produit de luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines chocolateries, selon vous, le chocolat est vendu trop cher pour ce que c'est?
Certainement, parce que je pense que dans certaines places, il y a peut-être un excès sur les boîtes. Quand je vois des fois des emballages, il y a 6-8 truffes dedans, puis on paye ça 20 francs. Pour moi, c'est de la folie. Je n'achète pas la boîte. Ce qui m'intéresse, c'est le chocolat. Et de mettre 10 francs pour une boîte alors que on va la jeter après, c'est inutile pour moi.
Les gens veulent de plus en plus de produits artisanaux, hein, on le voit avec le nombre de brasseries qui a littéralement explosé ces dernières années. Presque chaque village a sa bière. Ça pourrait se produire avec des chocolateries?
Je pense pas, parce que c'est une bière, vous pouvez acheter votre kit, vous pouvez le faire. Pour travailler le chocolat, il faut quand même une formation, il faut un savoir-faire, il faut un doigté, et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Si je vous donne à faire des truffes à l'ancienne, je vous écris la recette, vous la faites, je pense pas que vous allez la réussir si vous n'avez pas une formation, si je vous dis pas comment faire, si je vous suis pas dans la recette.
Alors, vous avez ouvert votre chocolaterie en mai. Vous venez d'engager un nouveau collaborateur pour vous aider. Vous vous attendiez à ce développement si rapide, à pouvoir déjà agrandir l'équipe?
Je l'espérais, mais pas aussi rapide, ça c'est sûr. Mais bon, c'était quand même dans les souhaits.
Vous l'avez dit plus tôt, hein, la grande période pour vous, c'est les fêtes. Là, l'été a déjà bien fonctionné. Ça vous a étonné?
Oui, étonnamment, avant qu'on a fermé quand même cet été 3 semaines, mais même malgré le beau temps, les gens venaient, étaient curieux, sont venus découvrir et tout ça, et déjà beaucoup sont revenus.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les gens vont peut-être moins, je ne sais pas, en supermarché, acheter leur plaque de chocolat et puis se goinfrer de chocolat, mais vont peut-être plus chercher du produit de qualité et se faire un petit plaisir de temps en temps comme ça?
Je pense actuellement, quand on voit comment les produits du terroir fonctionnent, ces choses-là, les gens recherchent de plus en plus un produit spécial, un produit artisanal et viennent plus volontiers chez le petit artisan.
Alors en amateur, on l'a dit, vous produisiez 800 kilos par an. Aujourd'hui, vous êtes proche de 4 tonnes. Jusqu'à combien vous voulez monter?
Aucune idée, on verra.
Vous avez un ordre de grandeur de ce qui serait possible?
Vu la grandeur de la ferme, il y a de la marge. Mais je pense que voilà, ça dépendra des affaires et on adaptera. Mais le but, c'est que je reste artisan des produits artisans et que je ne change pas mes produits, même si je dois en fabriquer plus.
Alors vous êtes très présent sur les réseaux sociaux aussi. C'est devenu aujourd'hui nécessaire, selon vous, pour un petit commerce local comme le vôtre, de se montrer, d'être présent sur ces plateformes-là?
Oui, pour moi, c'est une évidence parce que certaines personnes regardent beaucoup ça. Et si je veux toucher plus de monde, du fait que je ne suis pas en ville, que je suis quand même dans un lieu décentré, hein, on n'est pas une grande ville comme Zurich, Berne ou Lausanne, pour attirer plus de monde, plus large, c'est des réseaux qui sont assez facilement abordables.
Vous avez d'ailleurs une anecdote concernant la création de votre logo. Racontez-nous ce qui s'est passé là.
J'avais fait un post sur Facebook. J'avais mis plusieurs écritures à choix pour choisir l'écriture du Christophe Chocolatier. Et j'avais mis, je crois, 4 ou 5 choix. Et les premiers jours, c'est le cercle d'amis proches qui répond. Ah, moi, je préfère la 1, la 2, etc. Après, il y a eu un partage. Ah, c'est un peu plus. Il y a eu 50 réponses. D'un coup, je vais voir 2 jours après, il y en a 120. Une personne de France qui répondait. Et à la fin du mois, j'avais plus de 1000 réponses et 40 000 vues sur la photo.
Vous m'avez dit, on vous a d'ailleurs contacté ou écrit depuis le Canada, ou on a voté depuis le Canada. Vous imaginez un jour fournir des clients aussi lointains?
Pourquoi pas? C'est encore en développement. J'ai un site internet. Il est encore un peu en stand-by. Il y a juste une photo. Voilà. Pas le temps de tout faire en même temps, mais pourquoi pas?
Alors Christophe Bourquin, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci d'être venu avec nous, être venu vers nous, plutôt partager avec nous votre passion pour le chocolat. Je rappelle que vous êtes le directeur de Christophe Chocolatier à Courtelary. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Et vous pourrez retrouver cette émission en intégralité sur notre site internet d'ici quelques minutes. Sortie de boîte, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient jeudi prochain à 18h30. D'ici là, belle fin de semaine à toutes et à tous.
Sortie de boîte.